Trainville PM. Politique.
Théo Taxi, aujourd'hui, n'est pas encore rentable. Et surtout, n'a plus le support nécessaire pour pouvoir poursuivre ses activités. Le contexte n'était peut-être pas approprié actuellement pour Théo Taxi, mais tôt ou tard, le contexte n'aura pas le choix de changer. L'erreur aurait été de ne pas essayer.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était Dominique Bécotte, donc le porte-parole de Théo ce matin, donc qui dit l'erreur, ça aurait été de ne pas essayer. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ça l'erreur? Paul Journet, éditorialiste à La Presse, bonjour.
Salut.
Carl Bélanger, stratège, bonjour.
Allô.
Paul Journet, est-ce que c'était vraiment ça l'erreur de ne pas essayer? Je vais aller à l'essentiel. Mmh. Penses-tu que la décision d'aider Théo, ça a-tu été une décision commerciale ou est-ce que ça a été une décision politique?
Assurément, ça n'a pas été qu'une décision commerciale. On ne s'est pas lancé là-dedans juste parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'on allait faire rapidement, facilement de l'argent. Il y avait une dimension politique, mais je ne veux pas dire par là que c'est une dimension politique, partisane, copinage. Il faut juste remettre le débat en contexte. Tu as l'industrie du taxi qui est en crise. T'as l'arrivée d'Uber, qui est un perturbateur. Uber, un cowboy, qui dit nous, on va pas respecter les lois, on arrive, arrangez-vous avec nous, adaptez les lois à notre avantage. Et là, on se demande comment on se débrouille avec Uber. Comment est-ce que, d'une part, on réglemente ou même interdit Uber? Et surtout, comment est-ce qu'on adapte l'industrie du taxi? Et là, arrive Alexandre Taillefer, entrepreneur avec sa crédibilité, mm-hmm. sa notoriété. C'est pas mauvais pour un gouvernement de s'associer à lui. Mm-hmm. En plus, c'est un entrepreneur avec des convictions sociales aussi. Il n'est pas juste là pour faire de l'argent à court terme. Il veut contribuer à sa société. Et là, il arrive et il est impliqué dans tous les débats sur le taxi. Je me souviens qu'en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, il avait déposé un mémoire. Puis c'est une des personnes qui semblait avoir une vision pour trouver un nouveau modèle concurrentiel adapté aux nouvelles technologies pour l'industrie du taxi. Donc, c'est dans ce contexte-là que, oui, il y a une dimension politique là-dedans. Mais moi, je dis pas que parce que c'est politique, c'est forcément péjoratif, puis c'est parce qu'il y avait du copinage, non.
Qu'est-ce que t'en penses, Carl?
La question se pose, moi, on me l'a posée. Alexandre Taillefer, pour lancer Théo Taxi, il a obtenu des généreuses subventions de Québec. Je pense que c'était 9 millions en subventions, puis il y avait quoi, 4 ou 5 millions en prêts. C'est beaucoup d'argent. Et Alexandre Taillefer s'est retrouvé président de la campagne du Parti libéral par la suite.
Ben oui.
Et là, les gens se posent la question.
Ben c'est
Paul
sûr.
Paul dit qu'il n'y a pas de copinage, mais...
Je dis pas, écoute, moi, j'ai pas tous les faits en main. J'affirme pas hors de tout doute que c'est impossible qu'il y ait eu une certaine proximité, je sais pas, qui ait facilité l'octroi de subventions et de prêts. Moi, je dis juste que d'abord, au commencement du dossier, il y avait une dimension politique et symbolique. On le sait
par
aussi.
Rapport à Uber.
Ouais, par rapport
par à Uber.
À la résistance du Québec ouais. face à Uber ouais. et Alexandre Taillefer qui a réussi stratégiquement à l'incarner et à aller chercher plein de prêts et de subventions. Ça dépend comment on le calcule, mais si on les amasse tous ensemble, il y en a qui arrivent au chiffre de 60 millions de différentes subventions, investissements, prêts. Donc, c'est majeur. Là.
Quand
tu inclus
fonds de solidarité.
C'est ça, tu as la caisse de dépôt, fonds de solidarité, fonds d'action, etc., Investissement Québec.
OK. Mais je vais te dire, quand je regarde les réactions que je reçois, il y a beaucoup de scepticisme parce que les gens... Mettons, tu as raison de dire au départ, je pense que tu as raison de dire au départ, s'il y avait une dimension politique, c'était au sens de politique publique, là, au sens de dire, là, tu sais, ça prend un contrepoids à Uber, on a le goût d'envoyer un message sur l'électrification des transports.
C'est ça, on voulait envoyer un message.
Message
que c'est
social,
bien,
ouais, un modèle social qui est pas juste du taxi Uber, genre pour faire de l'argent, là, faire du fric. Mais après coup, quand le gars devient très, très, très proche des libéraux, devient président de la campagne, à un moment donné, il dit même qu'il pourrait être, laisse clairement entendre qu'il pourrait être candidat pour le parti, pour la chefferie du parti. C'est là que, mettons que la politique partisane là, arrive dans le portrait. Là, ça suscite un doute.
Le Québec, c'est petit, particulièrement le Québec Inc. Puis, on n'a pas besoin de tomber dans le criminel puis l'histoire de corruption, mais on peut dire que des fois, il y a des communautés d'esprit, des gens qui se rencontrent puis qui réussissent, qui ont un accès plus facile aux décideurs pour faire valoir leurs arguments. D'ailleurs, c'est ce qu'essaient de faire les gens d'affaires, de tisser leur réseau d'influence. Et en ce sens-là, si c'est ça que tu entends par... Je ne sais pas si copinage, c'est le bon terme, mais disons une influence particulière que M. Taillefer a réussi à avoir pour s'attirer des investissements, le public. Ben oui, de toute évidence, les chiffres le montrent, il a été très habile pour ça.
Ce qui m'amène
sans aller dans le détail du volet économique, là, c'est sûr qu'avec le recul, c'est facile de dire, ben voilà, ouais, on le savait que ça allait faire faillite, c'est tout croche cette affaire-là.
Non.
Mais bon, la définition du capital de risque, c'est de prendre un risque. Moi, je suis très déçu que ça n'ait pas fonctionné.
Ouais, ouais. Sauf que le risque a été pris avec pas son capital nécessairement. Là. Il a investi quelques millions, mais il y a beaucoup d'argent public.
Oui, oui, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des fonds. Les investisseurs, c'est du capital de risque aussi, eux.
Ouais.
Ça dépend de quel investisseur on parle, évidemment. Là-dedans, comme je disais, tu as Caisse de dépôt, Fonds de solidarité, Fonds d'action, Investissement Québec. Mmh. Tu as aussi des prêts et subventions du provincial. Et il y en a même eu aussi un petit peu du fédéral.
OK. Ce qui m'amène à ton deuxième sujet, Paul, parce que je pense qu'il y a quand même un lien entre les deux. Là, on apprend, je pense que c'est Geneviève Lajoie, ou en tout cas, c'est le journal...
Geneviève Lajoie, Journal de Québec.
Lajoie, Journal de Québec, qui nous dit que chez les libéraux, il y a une lettre qui circule. Et d'après ce qu'on peut comprendre, c'est possiblement un député ou une députée du caucus qui la ferait circuler. Et cette lettre-là dit « On devrait s'excuser auprès des Québécois pour l'austérité, pour les sacrifices qu'on leur a imposés. »
Oui, je te lis un extrait, lu dans le Journal de Québec. C'est un ou une députée, ou des députés, hein, qui sait, qui dit « Nous avons foncé droit vers l'équilibre budgétaire et avions les yeux rivés vers les chiffres. Ce faisant, nous nous sommes éloignés des préoccupations des Québécois. Nous avons cessé de les écouter. »
Oui, puis à un moment donné, un autre passage dit « Si on avait fait ça sur 4 ans, au lieu de faire ça sur 2 ans, on n'aurait pas fait mal autant aux Québécois. » En d'autres mots, l'austérité s'est fait trop vite. Le coût humain a été trop élevé, puis c'est ça qui nous a fait mal, nous, comme libéraux. C'est un autre extrait de la lettre
exact.
Que je paraphrase.
C'est sûrement pas Carlos Leiter, je pense qu'on peut dire ça.
Ben, mais alors moi, je me dis, il faut que ça soit quasiment un ou une députée de la nouvelle QV. Là, parce
ça serait
que...
plus logique, là, hein? sans qu'on en soit certain, ça serait plus logique.
Mais qu'est-ce que t'en penses de cette lettre-là? Moi, je me demande...
C'est quoi le but de ça? Évidemment, le parti, à la suite d'une défaite, doit faire son mea culpa. Mm-hmm. Ça donne bien. Ils vont avoir une course à la direction. Donc, ce ne sera pas juste une opération de lavage de linge sage en famille. Ça va aussi être une réflexion sur les valeurs que devrait incarner le Parti libéral, quelles idées il devrait défendre. Mais je me demande, c'est quoi exactement le but de cette initiative-là? Qu'est-ce que la personne cherche à gagner en faisant circuler ça à l'interne?
Carl, si je te soumets une hypothèse, là.
Vas-y.
Mettons que tu as le goût de te lancer dans une course au leadership. J'ai aucune information, OK? On jase, comme on dit. Là.
Oui.
Je soumets une hypothèse. Mettons que tu as le goût de te lancer dans une course au leadership pour le Parti libéral, puis que tu veux prendre tes distances de la gang d'avant. Surtout qu'il peut y avoir dans la gang d'avant des candidats à la dite chefferie. Mettons un gars comme André Fortin, ancien ministre des Transports, tu sais, qui était ministre dans le gouvernement Couillard. Et donc. Donc, tiens, on pourrait dire dans une course au leadership, on sait bien, toi, André, là, tu étais d'accord avec l'austérité parce que tu faisais partie du gouvernement qui l'a appliqué. Mais toi, là, tu n'étais pas ministre dans le gouvernement Couillard, mais tu as le goût de te lancer à chefferie. Ça pourrait être le genre d'initiative que tu pourrais vouloir lancer, non? Une petite lettre ouverte où tu dis mea culpa, puis de cette façon-là, prendre tes distances avec la gang d'avant puis de te positionner.
Possiblement, sauf que dans ce cas-ci, c'est pas vraiment une lettre ouverte. Hein? On est
pas
plutôt
encore.
Dans l'anonymat,
pas
là, mais bon,
pas
si ça sort,
ça peut-être.
Mais on sait pas qui l'a signé, on sait pas qui l'appuie.
Elle a peut-être été coulée, cette lettre-là, mon ami. Là.
Oui, mais c'est ça. Hein? Moi, si c'était une stratégie politique, la distance, tu la fais en public. C'est le point que je veux t'amener. Si tu veux prendre tes distances du gouvernement, si tu veux prendre tes distances de l'ancienne direction, tu le fais publiquement. T'as pas besoin de le faire à une lettre au chef intérimaire. Ça donne pas grand-chose. À mon avis, il y aura des gens qui vont vouloir prendre leur distance du gouvernement Couillard. En fait, je te prédis que la majorité des candidats à la course à la direction vont prendre leur distance. C'est une réaction qu'on voit souvent et c'est dangereux malheureusement parce que à ce moment-là, on tente de couper les ponts avec des gens qui ont été là pendant très longtemps, qui ont mis en place un gouvernement qui est resté là très longtemps et on dit « vous étiez dans l'erreur ». Or, ça prend des gens pour gouverner par la suite, ça prend des gens pour travailler et amener tous juste du nouveau monde, c'est pas si facile, surtout dans une course qui il va être, je dirais, assez divisive. Lorsqu'on constate l'état du Parti libéral, il n'y a pas une solution facile à leurs problèmes présentement et la lettre, à mon avis, c'est un peu court sur les raisons de la défaite de l'élection.
Rapidement. Puis, je m'interroge sur la pertinence de continuer à parler du passé. Parce qu'on le sait, les finances publiques, c'est toujours lié au contexte. Tu arrives avec des finances publiques qui sont en difficulté. Il faut que tu fasses des choix difficiles par conséquent. Le portrait des finances publiques en 2014, c'est pas celui, on peut présumer, qu'on aura fort probablement en 2022. Par contre, il y a des choses qui, elles, ne changent pas, peu importe le contexte, c'est tes valeurs, tes principes. Et on le sait, il y a un problème d'arrimage entre les valeurs du Parti libéral et celles de pas mal de Québécois francophones. Ça se constate assez facilement en regardant sur une carte électorale. Il reste à peu près plus de députés rouges à l'est de Montréal, oui,
mais
à part Sébastien Proulx.
Mais c'est pour ça que
donc,
je voulais
la course à la direction. Ouais. Le volet économique, là, peut-être, mais il faudrait aussi s'intéresser au reste ou à tout le moins parler de comment les principes vont se conjuguer avec la situation économique à venir et non pas celle du passé.
En tout cas, moi, là, la question que je me pose, c'est, mettons qu'un libéral me fait un mea culpa, là, le bon Québécois qui l'écoute, là, est-ce qu'il a le goût d'y donner, de lui pardonner ou il a juste le goût de dire, garde, achale-moi pas avec tes excuses. Mais je veux passer à un autre sujet, Carl, parce qu'il me reste 3 minutes. Je veux que tu nous parles quand même de la première période des questions de 2019. On avait discuté, toi et moi, avec Paul, de la Chine. On pensait que les conservateurs allaient essayer d'embarrasser Trudeau avec la gestion du dossier de McCallum, l'ambassadeur, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est enligné.
On s'attendait tous à ce que la crise domine les débats. Grosse erreur, hein? C'est un gros dossier, des milliards de dollars en jeu, des citoyens canadiens emprisonnés arbitrairement par la Chine, un ambassadeur qui se fait congédier à cause de déclarations maladroites une après l'autre. Écoute, il y a eu seulement 5 questions hier là-dessus, de toute l'opposition.
Ils sont allés sur quoi?
Le déficit, les finances publiques, le NPD a ouvert sur le logement social. Ah! Donc, on est dans nos propres enjeux, on tente de parler de déjà préparer l'élection, sauf qu'il y a un gros dossier là, où le gouvernement a de l'air fou. Et non seulement ça, la première question d'Andrew Scheer, c'est une question fourre-tout. Il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait toutes sortes d'affaires. Et Trudeau a répondu en disant, ah, écoutez, on est dans une chambre des communes renouvelée, on remercie les gens qui nous ont permis d'être ici. Du grand n'importe quoi. Et Scheer suit, pose la même question en français. Trudeau répond, écoute, on peut l'écouter là, Scheer, Trudeau, ce que ça donnait hier.
La politique étrangère du premier ministre est une catastrophe et les Canadiens paient pour ses erreurs. Quand le premier ministre va arrêter de faire payer les Canadiens pour ses erreurs?
D'obtenir la libération des 2 Canadiens qui ont été détenus de façon arbitraire en Chine, ainsi que de pousser pour la clémence pour le 3e, et en même temps de s'assurer que nous sommes toujours là pour se tenir debout pour la règle de droit.
Ouais, OK.
L'opposition n'a pas fait son travail, Bernard. OK? Il y a des questions à poser, là. Qui a organisé cette conférence de presse avec les médias chinois à Toronto? Est-ce que la ministre Freeland, qui est celle qui est la plus populaire présentement, la meilleure réputation, est-ce que c'est elle qui a le contrôle de ses diplomates ou pas? Et si on arrive à la demande d'extradition, si le juge décide qu'effectivement c'est valable, est-ce que le ministre de la Justice va dire oui ou non? On n'a pas posé ces questions-là au gouvernement hier.
C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions. Les conservateurs veulent parler plus de déficit. Hein, c'est ça? Ils veulent parler de déficit.
Il y a une motion là-dessus aujourd'hui en Chambre, un vote la semaine prochaine. Mm-hmm. C'est la conversation qu'ils veulent avoir pendant l'élection.
Ah, ils veulent installer l'idée que si les libéraux sont réélus, ils vont augmenter les taxes, notamment la taxe sur le carbone et tout le reste. Exact. On en reparlera à la suite de ce débat et de ce vote. Carl Bélanger, à demain.
Bientôt.
Paul Journet, à demain.
À demain.
Et nous, on continue tout de suite après les informations.